Direct en jeu, la radio insolite, toujours sur la route de, sur la route de je sais plus quoi, de Cheval Passion en Avignon, du Festival de Cannes, du Festival d'Avignon. Enfin, vous savez qu'on est, on suit la route tout au long de l'année parce que le spectacle vivant, ça n'est pas uniquement dans ces temps forts, au mois de janvier, au mois de juillet ou au mois de mai, pardon, mais c'est tout au long de l'année. Et là, j'ai le bonheur de je ne sais pas comment la présenter. Est-ce une poète? Est-ce une styliste? Est-ce une femme de la communication? Est-ce une créatrice? Bonjour Sandra, comment te présenter?
Bonjour Alain. Comment me présenter? Je cherche encore moi-même parce que justement, on va se le dire tout à l'heure, j'aime pas les cases. Et c'est la raison pour laquelle ce dont on va parler tout à l'heure ne correspond à aucune case et que même dans sa genèse, vous allez entendre le zéro frontière. Bon, en fait, avant toute chose, je suis une attachée de presse, donc une femme de la communication qui a commencé dans les milieux sociopolitiques et puis très vite y aller vers le théâtre à son compte. Et c'est ma fonction d'attachée de presse qui a rencontré une nature, je pense. Et ma nature, elle est plutôt artistique. Voilà, alors du coup, c'est la nature artistique qui a rencontré une fonction d'attachée de presse. C'est comme ça qu'on peut me présenter, d'accord, je pense.
Alors, enfant, tu écrivais des poèmes, mais surtout quand tu as voulu devenir styliste, ta maman n'a pas voulu, parce que j'aime bien ce qui est expliqué, c'est qu'elle souhaitait pour sa fille un métier sérieux.
Oui.
J'adore en fait, le notion de métier sérieux.
Ouais. Je pense que derrière le mot sérieux, elle entendait surtout un métier qui permette de gagner ma vie. Parce qu'en fait, pour la toute petite histoire, ma maman m'a eu relativement toute seule, on va dire, et elle n'avait que 18 ans. Alors, elle souhaitait pour moi que je sois une femme autonome. Alors, quand je lui ai annoncé, parce que je suis née en écrivant des poèmes et en dessinant très, 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 très vite, quand je suis née comme ça, très vite, je savais où est-ce que j'irais. Et elle, ça lui a fait très, très peur, si bien qu'elle m'a tout de suite dit, non, tu ne seras pas styliste, tu ne seras pas poète, tu ne seras pas tout ça, toi, tu gagneras ta vie, tu seras une femme autonome. Donc, je pense que derrière le mot sérieux, il y avait surtout beaucoup d'autonomie désirée.
C'est bien. Moi, j'aime bien le concept de femme autonome, hein.
Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est très à la mode, le concept de femme autonome. Ça plaît beaucoup aux femmes, mais mine de rien, ça plaît aussi beaucoup aux hommes.
Ah, ça, c'est vrai, je pense, oui. Bon, concrètement, donc, attachée de presse. Attachée de presse sur, pour le théâtre en particulier?
Oui, alors donc au début, jusqu'à mes 28 ans, on va dire, c'était dans les milieux sociopolitiques. Donc vraiment beaucoup de démarches institutionnelles, comme par exemple le CESU, le chèque, vous savez, que Jean-Louis Borloo, quand il était ministre de l'Emploi et de la Cohésion sociale, avait remis à la mode, enfin voilà. Donc des sujets un petit peu comme ça. Donc là, c'était sur les services à la personne. J'ai été aussi attachée de presse du CIMIC et Salon Immobilier d'entreprise. Enfin voilà, donc j'étais vraiment dans des milieux institutionnels. Mais comme j'avais pas eu le droit d'explorer ma nature profonde, à un moment donné, je me suis réveillée et je me suis dit, il faut la laisser parler. Et donc, à mes 28 ans, je me suis lancée dans les relations presse. Il s'avère que ma maman était partie vivre à Avignon. Et là où elle m'avait empêchée de commencer, finalement, elle m'a tendu la main à ce moment-là parce qu'en partant vivre à Avignon, elle a rencontré plusieurs personnes importantes du Festival d'Avignon, qui habitent là-bas, évidemment, à l'année. Et elle a commencé à héberger un monsieur qui s'appelle Grégoire Couette-Jourdain, qui est un metteur en scène. Et à l'époque, il montait Des Profondis d'Oscar Wilde. Et ce monsieur, Grégoire Couette-Jourdain, m'a dit, il paraît que tu vas être attaché de presse dans le théâtre. Oui. Eh bien, très bien, je te donne ta chance parce que Des Profondis d'Oscar Wilde va venir au Lucernaire. Voilà. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé parce que j'ai mis toute ma force et mon énergie dans Des Profondis et on a eu une revue de presse absolument incroyable. Et comme j'ai eu la chance de commencer au Lucernaire, évidemment que ça a fait du bruit. Et alors là, les contrats ensuite se sont enchaînés. Donc, attaché de presse, théâtre. Jusqu'au moment où Philippe Persson, qui était à la direction du Lucernaire à l'époque, me dit, je pense qu'il faut qu'on active un peu la communication du lieu. On n'a pas d'attaché de presse dédié au lieu. On va essayer de faire des choses. Est-ce que tu veux faire une proposition parmi tant d'autres? Ok, j'ai fait une proposition, mais comme je venais du domaine de l'agence, je fais ce qu'on appelle véritablement une recommandation à 360 degrés, c'est-à-dire un plan de communication qui sort même des relations presse, qui va sur l'événementiel, pour aller au-devant du public, par exemple, et refaire venir le public au théâtre, parce qu'on sait que quand même, aujourd'hui, pour remplir une salle, c'est pas chose aisée. Et donc, du coup, j'ai commencé à travailler au Lucernaire avec Philippe Persson. Et ensuite, Philippe Persson a donné la main à un autre directeur, Donc après, moi, j'ai continué mon aventure ailleurs. Enfin bon, bref, du coup, je suis passée de nouveau attachée de presse à mon compte, mais toujours dans le théâtre.
Voilà. Et le confinement arrive, et là, l'idée, c'est de se dire comment faire pour...
Exactement, parce qu'au moment où le confinement arrivait, j'étais au studio Héberto, et je le suis d'ailleurs toujours, et donc... On était les quatre drôles de dames, c'est comme ça qu'on s'appelait au sein du studio Héberto. On était quatre femmes à diriger à certains niveaux le théâtre. Et donc moi, j'étais la partie communicante, évidemment, en tant qu'attachée de presse, chargée d'événements, etc. Des événements, etc. Et puis, et le confinement arrive. Bon, pour la petite histoire, trois semaines avant le dit confinement, c'est celui qui a été prononcé par Emmanuel Macron le 16 mars, tout le monde s'en souvient quand il nous dit à la radio « nous sommes en guerre ». Pour la petite histoire, trois semaines auparavant, je m'étais cassé le bras. Et pas n'importe comment, le coude en 3 et l'humérus en 1. Donc quatre fractures, je ne pouvais plus du tout bouger. Donc je me suis retrouvée immobilisée avant tout le monde. Et donc, trois semaines plus tard, on nous dit que nous sommes en guerre. Je prends les routes, la route, je pars à la campagne parce qu'en plus de ça, j'étais vraiment mal physiquement. Le temps passe. C'est vrai qu'à ce moment-là, personne ne parle de la culture.
Tout à fait.
Mais voilà, enfin, sur les chaînes, personne ne parle de la culture. Le temps continue de passer. Personne ne parle du Festival d'Avignon. Tout le monde est aux aguets parce que, mine de rien, le Festival d'Avignon, c'est énormément de métiers, c'est énormément d'argent.
Exact.
C'est quand même une mobilisation du domaine artistique très, très importante à ce moment-là de l'année. Et nous, on s'y prend bien à l'avance, comme vous pouvez l'imaginer. Et là, on est tous avec un gros point d'interrogation ou des points de suspension, je ne sais pas. Les artistes avec lesquels je travaille au studio Héberto, enfin en tout cas dans mon giron, on s'appelle, on se parle, on est tous un peu dépossédés et on est tous très, très inquiets. Certains me disent « j'ai été obligée de changer de métier, Sandra, tu te rends compte ?» Et là, face à ce désespoir vraiment, je me dis, il faut qu'on prenne les choses en main. Si on nous a coupé un bras, il faut qu'on en fasse pousser un autre. Alors, en tant qu'attachée de presse, depuis des années, je faisais depuis des années, chaque année, le Festival d'Avignon. Et en fait, je me suis aperçue à ce moment-là de ma réflexion que j'avais plusieurs pièces du puzzle et qu'il suffisait de les rassembler pour créer quelque chose. Alors, je dis toujours que c'est un peu la main divine parce que tout d'un coup, toutes ces pièces de puzzle se sont rassemblées et ça a créé le Phoenix Festival. Le Phoenix Festival, il essaye de répondre à ces pièces de puzzle dont je parlais, qui sont des choses qu'on reproche au Festival d'Avignon. Bon, par exemple, le système économique. Vous savez qu'un Festival d'Avignon, ça coûte à peu près 25 000 euros à une compagnie.
Oui.
Pour faire le Festival d'Avignon...
Et c'est pas cher encore, 25 000 euros. Hein.
Et encore, je suis gentille, effectivement. Il faudrait que je remette mes chiffres au goût du jour. Mais voilà, donc moi j'avais à peu près 25 000 euros par compagnie. Bon, ça évidemment, il faut l'ajouter au prix d'une création, parce que la création c'est de la scénographie, donc c'est du mobilier, et puis c'est des répétitions, donc c'est de l'humain à payer,
voilà.
Enfin c'est beaucoup de choses, donc c'est énormément d'argent. Donc ces 25 000 euros s'additionnent au prix de la création. Et puis ensuite, si jamais la compagnie veut faire une exploitation parisienne, ça va s'ajouter derrière. Et puis il y a les frais de communication, et puis il y a les frais de... Enfin, il y a tous les frais. Donc ça, un spectacle coûte très très cher. Et là, je me suis dit, c'est quand même dingue, parce qu'on devrait à ce moment-là l'aider à exister, ce spectacle-là. Alors, exister face à 1600 spectacles, là, c'est une autre pièce du puzzle. Trop de spectacles. Bon. L'autre pièce du puzzle, c'est trop de spectacles, mais c'est-à-dire lesquels? Et la troisième pièce du puzzle, c'est pas forcément des créations, c'est aussi des grosses machines qui, on dit dans le métier, peuvent vampiriser finalement le milieu. Parce que face à 1600 spectacles, les journalistes, ils n'ont pas le don d'ubiquité, on le sait, ils travaillent énormément déjà à l'année. Donc là, au Festival d'Avignon, ils sont au climax de leur activité. Et 1600 spectacles, on fait comment? On va voir qui? Il faut faire un choix. Et le choix, il se porte vers qui, vers quoi? Vers des grosses machines ou vers des créations dont on ne connaît pas la qualité, puisque justement, ce sont des spectacles qui viennent de naître. Ça, c'est donc la troisième pièce du puzzle. Alors moi, je me suis dit, le Festival d'Avignon ne va pas avoir lieu, ça a été le cas, et est-ce qu'on peut imaginer un festival qui va pouvoir aider le Festival d'Avignon? Donc, une avant-première du Festival d'Avignon, mais qui serait dédiée à la création, donc à ces fameux spectacles inédits. Et à ce moment-là, du coup, on désengorge l'agenda des journalistes, des programmateurs, puisque c'est un temps d'avance que nous avons sur le Festival d'Avignon, pour que justement, ils se dédient à la création. Dernier point, il fallait que justement ce festival qui allait être en amont du Festival d'Avignon ne rajoute pas des frais supplémentaires à la compagnie. Donc, le seul moyen, c'était de trouver un modèle économique solidaire. Donc, le seul moyen que moi, personnellement, j'ai eu, c'est d'aller taper à la porte de beaucoup de théâtres parisiens. Alors, disant, bon, je sais ce que vous pratiquez à l'année, c'est bien normal parce que vous avez des frais fixes. Mmh. Les théâtres aussi sont en mauvaise posture financière, évidemment. Tout le monde l'est. Donc, il n'y a pas... Voilà. Mais, justement, si chacun se tend la main, est-ce qu'on ne peut pas créer une ronde vertueuse économique? C'est-à-dire, si on se dit que on n'achète pas le spectacle, mais de l'autre côté, vous ne pratiquez pas non plus de location de salle, mais qu'on se dise simplement que là, il y a une création, que vous ouvrez vos portes, et qu'à la fin de la représentation, on prend la recette, donc le nombre de places qui engendraient une certaine somme, et qu'on la divise par deux. Donc, c'est partage de risques, mmh, au début, et c'est partage de bénéfices après. Évidemment, le Phoenix Festival, quand je l'ai présenté, de toute façon, le monde de la culture était à l'arrêt. Donc, finalement, vous savez, on dit toujours que la bonne idée, c'est, enfin, le bon objectif, c'est la bonne idée, les bonnes personnes et le bon moment. Exact. Et force est de constater que c'était le bon moment parce que, de toute façon, tout le monde était tellement aux aguets que quand j'ai proposé ça au théâtre, alors que de toute façon, on avait totalement conscience, tous les acteurs du métier, qu'il fallait réinventer quelque chose, eh bien, il y en a un certain nombre qui m'ont dit « Ok, ok, on va faire comme ça. Mm-hmm. » Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Parce que le studio Héberto, chez qui je travaillais, et chez qui je travaille toujours, m'a dit « Sandra, on est avec toi, donc viens, on fait un essai chez nous. » Et on a fait un essai entre les deux Covid, les deux confinements. Parce que vous vous souvenez, on a été confiné le 16 mars, on a été déconfiné au mois de mai, la rentrée théâtrale devait s'opérer au mois de septembre, et rappelez-vous, au mois d'octobre, fin octobre, on était de nouveau confinés.
Et oui.
Et bien moi, au mois de septembre, j'ai fait l'essai du Phoenix, donc on va dire l'édition zéro, mmh, qui n'a duré à l'époque que 3 jours, pour planter la philosophie et montrer la ligne artistique, j'ai fait l'essai du Phoenix au studio Héberto. À ce moment-là, j'étais devant le Grange Les Costases pour une interview. Et puis après, il y avait 3 jours de programmation artistique, soit 9 spectacles qui se succédaient du vendredi au dimanche au studio Héberto. Et cet essai, cette édition zéro en septembre, entre 2 confinements, a fait beaucoup de bruit. Ensuite, souvenez-vous, de octobre jusqu'au 19 mai, nous avons été, nous dans la culture, toujours confinés parce que les lieux d'événements de culture était fermé.
Ah, totalement. Sur Lyon, il y avait plus rien.
Et ben voilà. Et ben pendant tout ce temps, j'ai travaillé dans ma cave, dans l'obscurité, en étudiant une vraie année 1, une vraie première édition. Je ne savais pas si cette édition allait avoir lieu, puisque je ne savais pas si Emmanuel Macron allait réouvrir les lieux de culture à temps. Donc, tous les théâtres engagés, c'est comme ça que je les appelle, m'ont dit « on te suit ». Donc à l'époque, la Comédie Bastille, la Huchette, la Nouvelle Scène, évidemment le studio Héberto, d'autres théâtres encore, ils étaient 7 en tout. Mm-hmm. Même d'ailleurs l'espace Michel Simon, qui est un théâtre public à Noisy-le-Grand, mm-hmm, 750 places. Bon ben voilà, eux ils m'ont dit « écoute Sandra, on y va avec toi, on sait que c'est un coup de poker, on y va avec toi ». J'ai commencé à faire l'appel à candidature, on a reçu 150 dossiers, j'ai construit un comité de sélection pour étudier ces candidatures, 20 membres m'ont aidé à sélectionner ces dossiers, on avait maintenant notre programmation en main, ensuite j'ai mis chaque spectacle dans chaque théâtre, il n'y avait plus qu'à prier pour que les lieux de culture réouvrent. Le 19, donc là, le Phoenix édition numéro 1 devait commencer le 1er juin, et Emmanuel Macron lève la restriction aux accès à la culture, le 19 mai. Donc, on avait gagné le coup de poker. Mmh. Et c'est comme ça que la première édition du Phoenix en 2021, a eu lieu.
Je suppose que les compagnies se battaient pour venir.
Oui, évidemment, sauf que en même temps, il y avait aussi, comme c'était une première édition, personne ne nous connaissait. Donc, il a fallu faire un effort extrême de communication pour ventiler cette information qui était, attention, un nouveau festival secret. Mais en plus, c'était pas simplement un nouveau festival, c'était une nouvelle philosophie, puisque je vous ai expliqué ce rapport à l'économie solidaire que nous avons. Mmh. Donc, c'était expliquer un nouvel abord de la culture. Et ça, il a vraiment fallu, vraiment, et encore maintenant d'ailleurs, même si on prépare la troisième édition, il faut continuer à être très pédagogue sur la manière, sur l'angle dont nous voyons l'économie de cette culture-là. Mmh. Bon, et donc à l'époque, il fallait de toute façon ventiler l'information comme quoi le phénix existait. Donc, oui, comme tout le monde était aux aguets, finalement, et que ce monde est très petit, finalement, le bouche à oreille s'est fait très très vite. Et après, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu construire ce comité de sélection fait de 20 sièges, et d'ailleurs composé de tout corps de métier, auteur, metteur en scène, journaliste, comédien, directeur de salle, programmateur, producteur, attaché de presse, chargé de diffusion, enfin voilà, pour vraiment qu'on ait des jeunes, des moins jeunes, du Paris, de la région. Je voulais vraiment de l'éclectisme, vraiment. Et c'est eux qui m'ont aidé ensuite à faire une sélection. D'accord. Donc, il y a eu beaucoup de monde au Portillon, mais on a été très vigilants sur la manière de sélectionner les spectacles.
Il y a un thème qui se fait tous les ans, parce que bon, là par exemple, il y a l'appel à candidature qui se fait jusqu'à mi-février pour cette troisième édition du Festival Phénix. Il y a un thème qui est fixé où
Oui. C'est plus un thème, en fait, c'est plus un thème, toujours par ce phénomène de main invisible, qui me vient comme ça un peu naturellement. Mais c'est pas un thème que j'impose aux compagnies. C'est-à-dire que vous savez, le Phénix Festival, il a sa sélection officielle. Donc, les spectacles qui sont sélectionnés par le comité de sélection. Mmh. Mais il y a aussi, autour, de manière satellitaire, on va dire, des concepts que je crée chaque année. Par exemple, l'année dernière, j'ai créé les lectures à la bougie. Mmh. J'ai aussi créé l'année dernière les concerts aux couleurs du monde. Et là, en fait, ce sont ces concepts satellites qui correspondent à la thématique que je me suis fixée. Ce sont des thématiques, comme je vous l'ai dit, j'étais dans le milieu institutionnel et sociopolitique. La sociologie ne m'a jamais quittée. Mmh. Je crois que d'ailleurs, si j'aime l'artistique, c'est parce que j'aime l'humain. Et donc, parce que pour moi, le théâtre transmet des messages et fait évoluer les consciences. Et en fait, c'est plutôt à travers de ces concepts satellites que je développe la thématique de l'année. Pas tant dans ma sélection de spectacles. Je respecte totalement les thématiques que chaque compagnie souhaite mettre en œuvre, développer. Quand nous, on fait la sélection sur les spectacles officiels, et vous savez, chaque année, il y en a à peu près 20 qui sont sélectionnés. En fait, ça se fait surtout sur la qualité de l'écriture, vraiment, puisqu'on parle des auteurs contemporains, mmh. on parle de plumes vivantes, donc vraiment la qualité du texte. Derrière, on va dire l'audace de la mise en scène, voilà, et bien sûr l'interprétation, très importante, donc la qualité du jeu. Quand on sélectionne, le spectacle est en cours de création, donc généralement, on n'a pas d'image, on n'a pas de son, on n'a rien. Donc, on sélectionne sur dossier. C'est une grosse prise de risque chaque année pour nous. D'accord. Mais pour être sûr qu'on va montrer au public, aux spectateurs, un spectacle de qualité, on auditionne. Donc voilà, on fait des auditions. Donc ça, c'est vraiment pour la partie de la section officielle qui ne correspond pas à la thématique. Il s'avère que en année 1 et en année 2, par chance et par bonheur, souvent, on retrouvait la thématique dans les spectacles sélectionnés, même si ce n'était pas une porte d'entrée. Mmh. Voilà. Donc cette année, la thématique, c'est l'étranger, l'étrangeté. Qui sommes-nous face à nous-mêmes? Qui sommes-nous parmi les autres?
Dans la présentation du Phénix Festival, j'ai trouvé sur Internet un enjeu qui m'a paru un peu surprenant. L'enjeu, c'est de réintéresser le public. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le public a perdu l'habitude ou il a découvert d'autres choses? Comment il faut comprendre cette notion de réintéresser le public?
En fait, moi, ce que j'ai toujours voulu développer, que quand j'étais au Lucernaire, ce que je fais au studio Héberto, et ce que je fais au Phénix Festival, c'est surtout pas de réintéresser, mais d'intéresser les jeunes. Parce que, est-ce que le théâtre est passé de mode? Est-ce que c'est nous qui n'avons pas su parler aux jeunes? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai la sensation, quand je vais au Festival d'Avignon, j'ai la sensation, quand je suis dans une salle de théâtre à Paris, que je vois surtout des personnes d'un certain âge. Mmh. Est-ce que c'est parce que le théâtre coûte cher? Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est une question d'argent, parce qu'une place de cinéma aussi coûte cher.
Tout à fait.
Donc, Je crois pas que ce soit une question de surtout qu'en plus on fait beaucoup d'efforts pour les jeunes, donc souvent ils ont des tarifs préférentiels assez intéressants. Bon, donc c'est pas une question de c'est pas une question d'argent. Je pense que c'est vraiment une question d'abord. Comment on aborde le théâtre? Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur montre? Est-ce qu'on les fait rêver? Est-ce qu'on les fait palpiter? C'est en ça aussi que je cherche de l'audace, comme je disais tout à l'heure dans la mise en scène. Parce que dans l'audacieux, il y a du spectaculaire. Et dans le spectaculaire, il y a de l'intérêt. Donc, c'est pas tant réintéresser, parce que je parlais comme ça vraiment de la population globale, mais c'est plutôt d'intéresser les jeunes. Moi, j'ai envie d'aller au-devant des jeunes. J'ai envie de leur montrer que le théâtre, eh ben, ça peut être du pluridisciplinaire, ça peut être de l'interdisciplinaire. Ce qu'on appelle le théâtre, ça peut être de la musique, ça peut être de la danse, ça peut être évidemment du théâtre tout simplement. Ça peut être de la marionnette, ça peut être du clown, ça peut être du mime, ça peut être des acrobaties, ça peut être du cabaret. Et que parfois même ces disciplines se côtoient au sein d'un même spectacle. Moi, je leur promets du rêve. Je leur promets du rêve et de la joie. Pas seulement, parce que je pense aussi, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on véhicule un message, une élévation de conscience. Donc, j'essaye aussi de promettre quelque chose d'intelligent. Et je pense que si on arrive à cumuler ces trois qualités-là, on peut faire venir les jeunes au théâtre. Voilà.
C'est, quand j'entends, ça donne envie de poser candidature, hein, parce que là, franchement, il y a plein de choses, toute une philosophie, et puis la notion de spectacle vivant. On est très marqués, nous, à Villeurbanne, avec évidemment notre TNP, Roger ouais. Planchon, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Et il est enterré à 7. Zut, à côté de Georges Brassens. Ça va revenir. Enfin, on est très très sensibilisés, puis en plus on sort de Villeurbanne, capitale française de la culture 2022. Oui. C'est chouette parce que j'ai l'impression que c'est vraiment une opportunité que de participer. Donc logiquement, l'appel à candidature depuis le 1er janvier jusqu'au 15 février, si je dis pas de bêtises.
Exactement.
Il faut faire quoi pour répondre à l'appel à candidature?
Il faut aller sur phoenixfestival.com. En ce moment, il y a une page ouverte. Et sur cette page-là, on trouve le formulaire. Et quand on rentre dans le formulaire, il y a un dossier, il faut répondre à certaines questions. Après, il y a un dossier, le dossier d'information du spectacle, celui qui raconte l'histoire, qui raconte la mise en scène, qui illustre à peu près ce que ça va donner. Donc ce dossier est à déposer. Je dis tout simplement aussi que je suis pas la DRAC. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que mon dossier, le dossier que je vais lire, je le veux simple. Encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qu'on va voir sur le plateau. C'est vraiment l'âme qu'on y met, le cœur qu'on y met, les images que l'on y met. Donc, je leur dis souvent, ne perdez pas de temps à faire un dossier de 30 pages, parce que souvent, en une page, ce qu'on vient de se dire suffit. Mais si vous pouvez m'apporter entre-temps des croquis, ou alors des photos pendant vos répétitions, ou même des vidéos pendant vos répétitions, ou si même vous avez une lecture dans un lieu, eh bien, invitez-nous ou envoyez-nous cela, parce qu'en fait, on veut du concret. On veut du concret pour savoir qu'on va voir plus tard. Voilà. L'appel à candidature se termine donc du coup le 15 février. Cette année, le 17 février, avec tout le comité de sélection, tous les membres, on se réunit. Là, on discute toute une journée. Et à partir du 17 février au soir, normalement, on a nos 20 spectacles en main pour l'édition, donc du coup 2023.
Qui va se dérouler?
Qui se déroulera du 1er juin au 18 juin.
Ah oui,
donc juste avant le Festival d'Avignon.
Ah oui, ça sera un tour de chaud, Festival d'Avignon. Alors, je tiens à m'excuser. Pourtant, Jean Villard, c'est celui qui a créé le Festival d'Avignon. Et là, j'ai eu un trou de mémoire tout à l'heure. Évidemment, Jean Villard qui a dirigé notre TNP à Villeurbanne et tout.
Ah
c'est notre point commun. Là, je suis impardonnable, franchement. Et Jean Villard qui est aussi, évidemment, caméra 7, qui vit sa dernière vie, entre guillemets, à 7, dans le cimetière de 7. Ok, que dire de plus?
Justement que Jean Villard, c'est celui qui a signé le Phoenix Festival. Parce que vous savez, quand il a lancé la première édition du Phoenix Festival, c'est parce qu'il y a un de ses amis qui était donc à Avignon qui lui dit « Ah, tiens, je suis en train de lancer un petit truc, là, tu voudrais pas mettre ta pièce comme ça, théâtre ?» Et puis Jean Villard, il lui a dit « J'en ai pas une, j'en ai trois. » Alors du coup, je vais mettre les trois pièces, parce que quitte à tenter l'aventure, autant la jouer entièrement. Peut-être pas les mots précis, parce que j'ai pas la citation précisément en tête.
L'idée, mais en tout cas, là, oui. D'accord.
C'est ce que ça veut dire. Et je trouvais que cette phrase, elle illustrait très très bien le Phoenix Festival qui justement embrasse le Festival d'Avignon. Je dis aux compagnies, quitte à tenter l'aventure du Festival d'Avignon, jouez-la entièrement. Donc faites bien les choses avant, c'est-à-dire essayez d'avoir un effet de levier, c'est-à-dire participer au Phoenix Festival.
Bon, bah là c'est clair, il n'y a pas de problème. Ok. Ben merci d'avoir détaillé tout cela et puis on va suivre évidemment l'actualité parce que c'est sur la route du Festival of d'Avignon qui va démarrer le 6 juillet cette année. Et donc ça vaut vraiment la peine comme manière de venir découvrir déjà à Paris, puis après évidemment de venir en Avignon pour découvrir tout cela.
Et juste un petit mot de la fin. Oui. Comme je disais tout à l'heure, le Phoenix Festival c'est du zéro frontière. Donc il y a une chose intéressante, c'est qu'on veut développer, faire des petits phénix dans les différentes régions. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Et on a déjà un partenariat avec la Réunion. On a créé cette année un partenariat avec les Pays-Bas. Donc quand je vous dis que vraiment, on veut favoriser la libre circulation de la création, donc on serait très heureux, à un moment donné, de venir travailler dans votre région.
Il y a eu un projet l'an dernier, fin juin, sur Villeurbanne, au Puce du Canal, pour être précis.
Ouais.
Où l'objectif était justement de permettre à des compagnies ici en Alpine de venir se produire à Lyon, donc avant d'aller sur Avignon. Pardon, je suis en train de perdre ma voix. Malheureusement, le projet n'a pas abouti, mais c'est vrai que ça serait une excellente idée de le faire parce que ça permettrait justement d'être un élément moteur supplémentaire pour faire connaître encore plus les compagnies et les pièces.
Exactement.
Ok, eh ben merci en tout cas.
Merci à vous, Alain. Merci beaucoup.
Plein de bonnes choses. Merci.
Merci à vous aussi. Au revoir.